RFI, grand reportage.
It spilled for more than a month.
Le brut s'est répandu dans la rivière pendant plus d'un mois. Et à ce moment-là, vous ne pouviez même pas voir l'eau. À la surface, on voyait le pétrole brut flotter. Le gaz était aussi partout. Les gens ne pouvaient même pas allumer leurs casseroles la nuit pour cuisiner. Tout le monde était prudent et attentif.
Grand reportage nous amène dans le sud du Nigeria, dans le delta du Niger. Une région essentielle pour l'économie du pays. Il y a un an, elle était secouée par une nouvelle catastrophe liée à la production pétrolière. Plusieurs villes et villages de l'état de Bayelsa ont été ravagés par une marée noire et une pollution au gaz. La faune, la flore, les ressources halieutiques sont contaminées pour plusieurs années, avec des conséquences sur la vie économique locale. Nembe, la malédiction des hydrocarbures, c'est un grand reportage de Moïse Gomis.
Vêtu d'un bas de survêtement gris foncé, sweat-shirt à capuche assorti, Abi descend de sa moto de petite cylindrée. C'est un grand jour pour ce trentenaire au physique de catcheur, le sourire ravageur. D'une voix rocailleuse, Abi échange avec le chef de son chantier.
This is my site where I'm building my house, my living house.
C'est mon chantier où je construis ma maison d'habitation. Nous avons commencé les fondations ce matin. Quand on a une famille, on ne peut pas dépendre de la location de la maison des autres. Je suis locataire de quelqu'un, alors j'ai décidé de construire ma propre maison pour que mes enfants aussi soient fiers de moi. Je ne suis qu'un ouvrier, ce n'est pas facile. Nous sécurisons ce pipeline ITO. C'est mon travail. Nous allons normalement dans la brousse. Nous faisons le tour de l'oléoduc pour nous assurer que personne ne peut le trafiquer.
Il y a eu une pollution de gaz et de pétrole à quelques dizaines de kilomètres d'ici, et pourtant, vous construisez ici ?
Ici, au Nigeria, nous avons un adage qui veut dire « c'est difficile pour un homme de revenir en arrière ». Comme vous êtes venu jusqu'ici, vous pouvez constater que nous, les habitants du delta du Niger, nous, les Nembe, nous, les communautés productrices de pétrole, la pollution, c'est une chose banale que nous subissons tous les jours.
Mais je vous ai entendu tousser tout à l'heure.
Vous savez, quand j'avais 5-6 ans, ma grand-mère, quand nous toussions comme ça, elle nous mettait des toutes petites boules de pétrole, parfois, dans notre bouche. Aujourd'hui, en tant que personne instruite, c'est vrai que j'aurais peur de faire ça. Mais à l'époque, on n'avait pas peur du pétrole brut. C'est pourquoi la pollution, on la ressent, effectivement, dans l'air, mais ça ne nous fera rien. En tout cas, moi, en tant qu'homme africain, c'est ce que je crois.
Les Africains croient pour vous.
À une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau du centre de Nembe, un puits de pétrole a explosé. Cette infrastructure appartient à l'entreprise pétrolière nigériane ITO. Selon la population locale, le sinistre a été observé le 1er novembre 2021, bien qu'ITO affirme que l'éruption du puits avait commencé le 5 novembre 2021. Tel un geyser en furie, le puits OML 29 numéro 1 a craché sans discontinuer des quantités très importantes de gaz et de pétrole brut dans l'environnement. L'expert officiel assigné à l'estimation des dégâts évoque une fuite de 18 000 barils de pétrole. L'état de Bayelsa conteste et parle de 1 million de barils, un peu plus de 400 000 barils de pétrole, selon des voix indépendantes. Loin de cette bataille de chiffres, Moses Raël a pourtant vécu en première ligne cette catastrophe industrielle. La rivière Santa Barbara est son cadre de travail. Il pilote une pirogue à moteur qui assure la liaison entre Nembe et les dizaines de villages de pêcheurs disséminés entre les méandres du cours d'eau. Même au pic de la pollution, Moses a toujours transporté des personnes. C'est pourquoi ce trentenaire est marqué à jamais par cette pollution.
It spilled for more than a month.
Le brut s'est répandu dans la rivière pendant plus d'un mois. Et à ce moment-là, vous ne pouviez même pas voir l'eau. À la surface, on voyait le pétrole brut flotter. Le gaz était aussi partout. Les gens ne pouvaient même pas allumer leur casserole la nuit pour cuisiner. Tout le monde était prudent et attentif.
Moses se tourne, puis montre du doigt.
Cette catastrophe a été dramatique. Elle a causé beaucoup de dégâts dans l'écosystème. Regardez comment la forêt de mangrove est désormais morte. Tout est noir. Le pétrole brut, c'est vraiment horrible. Je vois ça comme le plus haut degré d'inhumanité envers l'humanité. Parce que comment Aiteo peut me dire que le pétrole brut va se déverser dans la nature pendant plus d'un mois? Et ils ont dit aux gens qu'ils ne pouvaient pas stopper cette fuite. C'est une information stupide, c'est absurde, c'est leur niveau d'incapacité qu'ils essaient de montrer. Si c'était Shell le responsable, je ne pense pas que cette fuite aurait duré plus de 3 à 4 jours.
Sansan Village est un hameau situé le long de la rivière Santa Barbara. Éparpillé sur un périmètre équivalent à un terrain de football, une dizaine de cabanes en bois dont certains toits sont couverts ici et là par de la toile en plastique. Un campement austère et désormais vide. Au bord de la rivière, Nathan Amakri décroche des filets de pêche accrochés sur plusieurs arbres. À 28 ans, il est le chef de cette toute petite communauté de pêcheurs, désormais presque à l'abandon. Ils étaient pas loin de 60 personnes à vivre ici. Moins de 10 personnes sont restées à Sansan.
Peu d'entre nous essaient désormais d'aller à la rivière. Auparavant, la pêche nous rapportait plus de 10 000 naira par jour, parfois même plus de 15 000 par jour. Mais depuis que la marée noire nous a affectés, quand nous allons pêcher, c'est pour gagner seulement 1000 naira par jour. C'est très grave. Nous ne cherchons pas d'excuses. Nous nous forçons quand même d'aller à la rivière. Même si nous ramenons juste un seul poisson, nous nous débrouillons avec nos parents, nos proches. Nous ne dépendons de personne. Nous travaillons. Nous luttons par nous-mêmes. Mais c'est à cause de cette marée noire que maintenant nous commençons à bénéficier d'aide humanitaire.
À quelques mètres de distance, la maman de Nathan jette des regards vers son fils. Elle tente de colmater les petits trous qui sont apparus sur la coque de leur pirogue. Nathan démêle lui lentement ses filets de pêche, bien usés par des années de labeur.
We set this net across creek.
Nous installons ce filet de l'autre côté de cette crique. Et lorsque nous y retournons le lendemain, nous retirons le filet de l'eau avec les poissons pris au piège. C'est ainsi que nous utilisons ce filet. Et depuis la marée noire, nous ne pouvons plus utiliser ce type de filet. Très rapidement, le filet dans la rivière est complètement recouvert de pétrole brut. Le filet est condamné. Donc on ne peut plus l'utiliser. Regardez ça. La couleur n'était pas comme ça avant. Le filet était clair. C'est le brut qui l'a rendu sombre comme ça. À cause de ce pétrole brut, nous sommes complètement déboussolés. Nous ne savons pas où chercher de l'aide. Regardez nos pirogues. Lorsque celle-ci s'est enfoncée dans de l'eau contaminée par le pétrole brut, quand nous avons quitté cette zone, il y avait du pétrole partout sur la coque, comme une sorte de chewing-gum très gluant. Au fil du temps, le pétrole s'est incrusté dans le bois. Et maintenant, la pirogue a des trous et elle fuit. Ainsi, même notre bateau est endommagé. C'est ce type de bateau que nos mères, que nos parents utilisaient pour nous faire vivre quand nous étions gamins, mais aussi payer nos frais d'école.
Un peu plus loin, toujours sur les rivages de la rivière Santa Barbara, se trouve Sunikuri, un village de pêcheurs où vivent une centaine de personnes depuis près de 40 ans. Déborah tient une minuscule baraque en bois qui fait office de boutique. Cette énergique jeune femme a installé deux petits bancs où ses clients peuvent consommer notamment le gogoro, le gin local. Comme la plupart de ses voisins, Déborah s'est adaptée par la force des choses à la pollution pétrolière et gazière sur la rivière Santa Barbara.
Nous n'avons plus de bonne eau pour nous laver, laver la vaisselle. Cette eau dans la rivière est la seule eau que nous ayons. Nous n'avons plus d'eau potable dans cet environnement. À cause de la marée noire, nous ne pouvons plus utiliser l'eau. Il n'y a pas d'eau pour laver mes vêtements et ceux de mon bébé. Nous avons beaucoup de vêtements sales, mais quand je vais à Port Harcourt, je les prends pour les laver. Nous faisons tout ce chemin jusqu'à Port Harcourt juste pour avoir l'accès à de l'eau. C'est de l'eau en séchet que nous utilisons pour cuisiner, nous laver et boire. Quand l'eau est finie, je dois emprunter quelques sachets à ma voisine jusqu'à ce que la pirogue qui nous ravitaille arrive. C'est comme ça que nous nous débrouillons.
Et comment vous voyez votre futur ici à Sunny Curry?
Eh bien, si j'ai de l'argent physique sur moi, je pars d'ici, sur le champ, car nous souffrons tellement. Pas de fourniture pour les enfants, l'environnement si sec. En fait, nous ne pouvons plus avoir une vie décente. Nous avons à peine de quoi survivre, car nous n'avons pas d'argent. Et surtout, nous ne pouvons pas aller mendier. Mes enfants sont trop petits, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Mais ceux de 15 ans, 16 ans, eux, saisissent parfaitement la situation. Ils ont conscience de nos souffrances. Parfois, ils pleurent parce qu'ils veulent manger. Mais quand la nourriture manque, nous ne pouvons tout de même pas aller voler. Clairement, les adolescents comprennent. Parfois, la plupart d'entre eux suivent les adultes jusqu'à la rivière pour pêcher afin que nous puissions utiliser ce poisson avec le gari, la farine de manioc. Ils reviennent souvent en pleurs car tous les poissons sont morts à cause de la pollution. Ça me fait mal, je souffre tellement. Je ne dors plus à cause de cette pollution car je ne peux plus subvenir aux besoins de mes enfants. Vous savez, nous ici, dans cette communauté, nous sommes de grands travailleurs. Et la pêche, c'est notre seul moyen de subsistance.
Aiteo a déclaré maîtriser la fuite le 8 décembre 2021. Une commission d'enquête a eu lieu le 17 décembre 2021. Elle était composée notamment de l'agence fédérale en charge de la gestion des pollutions liées aux hydrocarbures, d'Aiteo, de l'état de Bayelsa et des représentants de communautés locales. Le rapport de l'enquête a établi que l'explosion du puits était du fait d'un acte de sabotage, donc lié à une intervention humaine. Des conclusions qui ont le don d'irriter Collins Deji, ce trentenaire au regard droit et perçant est le vice-président de l'association des jeunes de Nembe. Il est le premier à avoir lancé l'alerte de la pollution sur la rivière Santa Barbara. Ce consultant en sécurité a participé à la visite officielle lors de la commission d'enquête et même lorsque le ministre d'État Timipre Silva est venu à Nembe, Collins était parmi les officiers.
Lorsque cette marée noire a commencé, Aiteo a essayé de la dissimuler en engageant une société de services pétroliers pour faire les confinements. Pendant qu'ils faisaient cela, ils avaient déjà annoncé que le puits avait été coupé le 6 novembre 2021. Cependant, la marée noire, cet écocide comme je l'appelle, a commencé le 1er novembre 2021.
Comment pouvez-vous être sûr de cette heure précise ?
Il y avait quelques pêcheurs dans cette zone, car la plupart de nos expéditions de pêche se font normalement la nuit, en raison de la nature sensible des poissons. La nuit, ils sont moins sensibles, mais le jour, ils sont plus sensibles. La plupart des pêcheurs préfèrent pêcher la nuit et se reposer le jour. Alors quand ils étaient dans la zone, selon le témoin oculaire, il y a eu une forte explosion. Et après l'explosion, le jaillissement du pétrole brut et du gaz a commencé. Et à ce moment-là, un agent de surveillance se trouvait dans la zone, car toute cette zone est sécurisée par une compagnie pétrolière qui emploie des personnes pour rester dans la forêt de mangrove afin de les surveiller. L'homme a dit qu'il n'y avait pas de vol de pétrole dans cette zone et a également signalé une fuite il y a 3 semaines, avant l'explosion. Je pense donc que c'est le résultat d'une accumulation excessive de résidus de gaz naturel, car le puits n'est pas productif et il est en sommeil depuis plus de 5 ans. Alors que les experts en environnement parlent de nettoyage de l'environnement, je suis plus préoccupé par la composante biologique, car les effets du bioacide de ce brut sont très nocifs pour l'homme et même pour l'environnement. Vous pouvez assainir l'environnement, mais comment un organisme d'un être humain peut-il être dépollué ?
Vous, personnellement, comment vous faites pour
continuer à vivre ici malgré la menace en termes de santé. Pourquoi vous avez choisi de rester ici pour mener cette bataille?
I don't have any other home.
Je n'ai pas d'autre maison qu'ici. Mes ancêtres ont vécu ici. Ils sont morts ici et ils sont aussi enterrés ici. Le seul héritage qu'ils nous ont laissé, ce sont ces vastes mangroves avec ces crevettes, crabes et fruits qui leur permettaient de gagner leur vie. Donc, je ne peux pas partir d'ici. Le boom de l'or noir a commencé en 1956 lorsque le pétrole a été découvert à Oloibiri, une localité pas loin d'ici. Et depuis, il y a eu une exploration partout sur notre territoire. Tout cela est dû au laxisme au fil des décennies des organismes chargés de réglementer, mais aussi à l'impunité dont jouissent les personnes qui occupent des fonctions publiques et qui sont censées contrôler les normes opérationnelles des compagnies pétrolières. Surtout à l'incapacité de ces personnes à contrôler ces normes. Et lorsqu'une catastrophe comme celle de Nembe se produit, beaucoup de ces entreprises pétrolières opèrent avec un tel degré élevé d'irresponsabilité qu'elles donnent le sentiment que le lieu où se déroule la pollution n'appartient à personne, qu'elles sont les seules vraies propriétaires du lieu. C'est leur mentalité. Tout ce que ces gens-là font, ils le font avec un haut niveau d'impunité. Et ils se pensent intouchables. Si vous venez ici pour les confronter ou les mettre en garde, ils utiliseront la sécurité contre vous.
As a place where I was born and I also have given birth to 4 children.
Je suis né ici, j'ai donné naissance à 4 enfants aussi ici. Les quelques hectares de creek avec ces mangroves, c'est un héritage qui m'a été légué. Si je ne parviens pas à protéger cet héritage, cela signifie que j'ai échoué dans mon parcours. Parce que mes ancêtres ont protégé ce territoire, ils l'ont gardé. Certains se sont même battus, certains ont perdu la vie pendant la guerre des Britanniques de Nembe en 1895, mais aussi avant, à l'époque de la traite des esclaves. Ils se sont levés et ont affronté les Britanniques, ils les ont combattus. Si mes aïeux n'avaient pas affronté les Britanniques et leur arrogance, je ne pense pas que j'aurais pu hériter d'un endroit comme celui-ci. Donc ce sang de guerrier coule toujours en nous, et je crois que par la grâce de Dieu, nous n'échouerons pas, parce qu'il est également certain qu'avec le temps, nous quitterons cette planète et que nos générations, les enfants à naître qui sont ici, prendront la relève de notre combat.
Je
ne veux pas que l'on inscrive dans le livre d'histoire que pendant ma présence sur ce territoire, quelque chose comme cela s'est produit et que je n'ai rien pu faire. Ce serait une honte pour moi et ce ne serait pas très bien si mes enfants apprenaient un jour que leur père était un jour chef de la jeunesse de Nembe et qu'une telle catastrophe s'est produite et qu'il s'est dégonflé sans faire ce qu'il fallait. C'est donc la conviction morale qui m'a poussé à m'impliquer et lancer l'alerte jusqu'à filmer les militaires, à leur tenir tête alors qu'ils sont armés et à leur dire la vérité. Dans d'autres régions, les militaires ont même tué des jeunes qui ont osé protester pour leurs droits. Ici, nous étions préparés au pire. Mais heureusement, les soldats n'ont pas fait l'erreur de tuer un de nos jeunes. S'ils l'avaient fait, je crois que nous, les jeunes, auraient aussitôt fermé de force la station de pompage et ce serait fini de toute activité d'exploitation pétrolière ici. Mais au moins, ils ont été professionnels dans leur conduite. C'est pourquoi il n'y a pas eu d'incident pendant tout le processus.
En novembre 2021, à l'époque ministre d'État à l'Environnement du Nigeria, Sharon Ikeazor a déclaré:
le désastre en cours à Nembe, c'est une situation que le gouvernement doit attaquer de front. Il y a une image que j'ai vue personnellement. C'était comme Hiroshima après la bombe atomique. Vous vous souvenez d'Hiroshima au Japon? Cette image était terrible.
Un an plus tard, les autorités fédérales du Nigeria n'ont toujours pas classé Nembe et la vallée de la rivière Santa Barbara en zone de catastrophe industrielle.
Nembe, la malédiction des hydrocarbures, un grand reportage de Moïse Gomis, réalisation Eva Piedet.